auditeurs de Radio Okapi, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire des Nations Unies. Aujourd'hui, nous animons cette conférence de presse depuis Goma. Nous avons l'équipe pays à Kinshasa, Geneviève Delenoir pour le pilier développement, Sylvestre Toumba Moudigaï pour le pilier humanitaire. Pour la section sécuritaire, nous avons le porte-parole militaire, le colonel Félix Posset-Bass, accompagné du général Carlos Alberto dos Santos Cruz, qui répondra aux questions. Voilà donc tous les grands titres de cette conférence de presse que nous ouvrons tout de suite avec les activités des composantes de la MONUSCO. Appui à l'administration pénitentiaire, le cadre de l'appui à la stabilisation par le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones libérées des groupes armés. Deux ateliers ont été organisés, l'un à Bukavu et l'autre à Goma, portant sur la sécurité et la gestion des prisons, ainsi que sur la mise en œuvre du décret ministériel sur la présentation des soins de santé dans les prisons de la République démocratique du Congo. Ces ateliers ont été l'occasion pour le personnel et les leaders nationaux de mieux comprendre le rôle qu'ils doivent jouer dans la gestion des prisons, et notamment en garantissant l'accès des prisonniers aux soins de santé. Section genre de la MONUSCO, le bureau genre de la MONUSCO a tenu le 10 juillet dernier, conjointement avec la section d'appui à la lutte contre le VIH à Bukavu, une séance de sensibilisation à l'intention de 74 femmes handicapées, y compris 4 hommes de l'ONG Action pour l'encadrement et la promotion intégrale des femmes vivant avec le handicap dans la commune de Kadutu au sud Kivu. L'objectif était de renseigner ces derniers sur le mandat de la section genre de la MONUSCO et l'intégration de la dimension genre dans leur métier d'artisanat et la vulnérabilité des femmes par rapport au VIH, signalant que cette ONG est composée de filles mères, de femmes victimes de viols, de femmes et hommes vivant avec le handicap, qui ont témoigné que l'exécution d'une telle activité s'avère indispensable. Par ailleurs, le bureau genre a également participé récemment à une réunion avec les autorités locales du territoire de Mwenga au sud Kivu. Cette réunion avait pour but de faciliter la représentativité et la participation des femmes à toutes les étapes et à tous les niveaux du processus de gestion et de transformation des différents conflits dans le territoire de Mwenga. Parmi les recommandations retenues à la fin de cette réunion figure notamment l'option de mener un plaidoyer en faveur des femmes pour qu'elles soient aussi retenues comme membres de tous les comités de médiation et de résolution des conflits. Information publique, la MONUSCO appuie la célébration de la journée internationale Nelson Mandela. Le représentant spécial adjoint secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, M. Moustapha Soumaré, présidera le vendredi 18 juillet la conférence de présentation de la journée internationale Nelson Mandela. La cérémonie aura lieu de 12h à 14h dans l'amphithéâtre Mgr Luc Guillon de l'Université de Kinshasa. Elle est organisée avec l'Institut pour la démocratie, la gouvernance et la paix, ainsi que le développement en Afrique, IDGPA, qui présentera à cette occasion un ouvrage intitulé « Hommage à Nelson Mandela, leçon de leadership pour les dirigeants africains et du monde, présent et à venir », écrit par André Mbata Mongou, professeur de l'Université de Kinshasa et professeur également à l'Université de South Africa et directeur exécutif de l'IDGPA. Vous êtes tous conviés à cette conférence. À présent, la parole à l'équipe pays des Nations Unies pour cette conférence de presse. Tout d'abord, Geneviève Delenoir, bonjour. Nous vous laissons donc la place pour nous donner un peu le point sur les activités développement au cours de la semaine écoulée.
Merci Charles et bonjour aux collègues de Goma, bonjour à ceux de Kinshasa. On commence avec une information de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Comment lutter contre le wilt bactérien dans les provinces affectées par la maladie? Pour répondre à cette question, 30 personnes experts de la FAO, du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, des ONG, des institutions de recherche et développement, des entités décentralisées, de la Commission nationale des maladies et ravageurs des plantes, se réunissent à Bukavu, au sud Kivu, pour mettre en place une stratégie de lutte contre le wilt bactérien du bananier dans 4 provinces de la RDC affectées par cette maladie, le nord et le sud Kivu, le Katanga et la province orientale. Pendant 2 jours, du 15 au 16 juillet 2014, toutes les parties prenantes de la filière bananière vont débattre sur les informations techniques, les leçons apprises, l'harmonisation des méthodes d'intervention et l'actualisation de la stratégie nationale de lutte et gestion de la maladie. Au terme de ces deux jours, il est attendu une amélioration des capacités institutionnelles des participants pour prévenir, atténuer et répondre aux maladies de la banane. Cet atelier de Bukavu s'inscrit dans le cadre du projet régional de la FAO en français « Risque de sécurité alimentaire dans la région des Grands Lacs, réponse rapide à la menace des maladies des bananiers ». Cet atelier est financé par la Belgique et couvre 5 pays, dont la RDC, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Dans le cadre de son projet « Appui aux radios locales en technologie de l'information et de la communication », l'UNESCO organise un atelier qui convie 4 stations de radio situées en RDC. Du 15 au 18 juillet 2014, les ateliers sur les techniques et stratégies du marketing et sur l'utilisation des logiciels liés au monitoring et la gestion des SMS dans la production radiophonique seront donc organisés. Des délégués des radios du Katanga, du Bas-Congo, de Bandundu et de Kinshasa participeront à cet atelier qui a pour objectif de renforcer la capacité des radios dans le domaine du marketing, ce qui profitera ensuite à leur travail d'édition et de gestion, ainsi qu'à leur viabilité économique, améliorer la capacité à produire et entretenir des relations commerciales, promouvoir les techniques de marketing auprès des radios locales et renforcer leur capacité pour le développement et l'exécution d'un plan de marketing. En ce qui concerne l'utilisation des logiciels, il sera question de permettre aux radios d'assurer une évaluation de leur fonctionnement et de leurs programmes par la réalisation de sondages d'opinion auprès de leurs auditeurs. Le projet « Renforcer les radios locales par le biais des TIC » est exécuté par l'UNESCO avec l'appui de l'Agence suédoise d'aide au développement international, SIDA en sigle. Le 11 juillet dernier, le programme des Nations Unies pour le développement, en appui au ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, et en partenariat avec Airtel et Rawbank, a organisé une rencontre avec le secteur privé sur le projet Appui aux communautés rurales en faveur des populations vulnérables en RDC. Ce projet s'inscrit dans la logique de responsabilité sociale des entreprises, qui est un engagement volontaire du secteur privé à participer au développement du pays et au renforcement de la paix au sein des communautés. C'est dans ce contexte que Airtel et Rawbank se sont jointes au PNUD pour répondre concrètement aux préoccupations des populations rurales. Le territoire de Walungu au sud Kivu a été identifié comme zone pilote, avec comme objectif d'améliorer les conditions de vie des communautés rurales à travers la formation sur la gestion des petites et moyennes entreprises dans l'accompagnement de l'établissement des agences publiques où l'on pourrait recourir aux services de communication et de transfert d'argent. Faciliter l'accès au crédit des populations rurales, principalement les femmes et les jeunes. Promouvoir la création d'emplois grâce à la formation. Toujours à propos du PNUD, la première série de formations de reconversion professionnelle organisée à l'intention des anciens chauffeurs de taxi-moto s'est achevée sur des résultats encourageants. Mise en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement, en collaboration avec le ministère provincial de la jeunesse et sur financement du Japon, cette formation de reconversion socio-économique s'inscrit dans le cadre du projet de résilience des déplacés internes dans les territoires de Mambasa et Rumu, district de l'Ituri en province orientale. La première formation a porté sur le code de la route, la déontologie du chauffeur, la résolution pacifique des conflits, l'éducation civique et la nouvelle citoyenneté. Au total, 310 chauffeurs de taxi-moto, 200 de Bunia et 110 de Komanda y ont pris part. Le métier de chauffeur de taxi-moto est très pénible, il est donc difficile de le pratiquer pendant de longues années. C'est pourquoi le PNUD a initié une autre série de formations professionnelles de 6 mois chacune pour les anciens chauffeurs de taxi-moto désireux de se reconvertir professionnellement dans la mécanique générale, l'électricité, la plomberie et l'informatique. Les participants ont bien réussi les tests et ont reçu leur brevet d'aptitude professionnelle des mains du commissaire de district, assistant, chargé de l'administration et des affaires politiques. Pour cette première promotion, le PNUD encourage les nouveaux diplômés à se rassembler en coopérative de service pour faciliter leur reconversion socio-économique. Et je termine avec une information émanant de ECHO et de l'UNICEF qui renouvelle leur alliance dans la réponse aux urgences en RDC. Le département d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne en sigle ECHO poursuit son engagement aux côtés de l'UNICEF dans la lutte contre la malnutrition en République démocratique du Congo par un appui financier de 3,6 millions d'euros ainsi que dans la réponse rapide aux mouvements de population en sigle RRMP par un soutien de 6 millions d'euros. Le RRMP est co-géré par l'UNICEF et OCHA. Et il faut savoir que depuis février 2012, les activités cumulées de RRMP ont atteint plus de 4,1 millions de bénéficiaires au Nord Kivu, Maniema, Sud Kivu, Province Orientale et Katanga. En 2013, l'assistance du RRMP a représenté 60% de l'ensemble de l'assistance en articles ménagers essentiels dans les provinces ciblées. En mars 2014, on estimait à 2,63 millions le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de la RDC, essentiellement dans les provinces de l'Est et au Katanga, touchées par les conflits armés. Un communiqué de presse est disponible à la fin de cette conférence de presse sur cette information. Merci beaucoup.
Sans transition, nous passons au pilier humanitaire et la parole est à présent à Sylvestre Touma Moudigbaï. Quels sont les faits saillants de l'action humanitaire cette semaine en RDC? Pas d'informations humanitaires?
Non, ça non, sera la justice au cas où il y aurait des questions.
Tout à fait. Bon, on vous retrouvera s'il y a des questions humanitaires. Nous passons donc directement au volet sécuritaire avec le colonel Félix Foncer Basse. Colonel, bonjour. Alors, que peut-on retenir des faits saillants de l'action militaire cette semaine en RDC?
Nous avons procédé immédiatement à un bref survol de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Et sans tarder, nous démarrons par l'ouest où un calme total a prévalu durant la semaine écoulée. En province orientale, une forte détermination anime les casques bleus de la MONUSCO et les troupes gouvernementales dans leurs efforts de neutralisation des éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur et l'Aré, encore actifs dans les districts de Haut et Bawélé, particulièrement dans la zone proche de la rivière Bangalo. Le climat sécuritaire dans les districts d'Ituri a été dominé par les opérations menées par l'armée congolaise, soutenues par la force de la MONUSCO, contre les miliciens du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri FRPI dans les localités situées au sud du territoire d'Irum. En effet, les forces gouvernementales ont, pendant la période sous examen, engagé plusieurs positions du FRPI situées dans la partie méridionale du territoire d'Irum, suite aux multiples exactions perpétrées contre les populations civiles. Selon des rapports concordants, environ 20 miliciens du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri ont attaqué le village Mandibé, situé à 15 km à l'est de Komanda, et kidnappé 3 individus qui seront libérés plus tard, suite aux opérations conjointes lancées par les troupes congolaises et onusiennes. Au Nord Kivu, l'environnement sécuritaire est toujours marqué par les opérations menées par les troupes gouvernementales soutenues par les casques bleus, contre les groupes armés actifs dans cette partie de la province. Dans le territoire de Walikale, les opérations conjointes de ratissage menées sur l'axe Mpofi-Kachebere par la force de la MONUSCO et les FRDC contre les Maïmaï Tcheka Nduma Défense du Congo et ceux de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS se poursuivent normalement. En effet, le 10 juillet 2014, deux miliciens de l'APCLS, porteurs de deux armes et en possession de munitions, ont été appréhendés par les militaires congolais au cours d'opérations menées contre ce groupe armé dans le village Bouzé, situé à 5 km à l'est de Nyabiondo. Dans le territoire de Massissi, les forces de défense et de sécurité congolaises mènent également des opérations contre les forces négatives. Dans le territoire de Béni, les opérations de ratissage menées conjointement par la force de la MONUSCO et les FRDC contre les rebelles de l'Alliance des Forces Démocratiques, ADF, se poursuivent sans répit dans le but de sécuriser les îlots de stabilité dans cette partie du pays, mais aussi consolider les acquis de la débâcle des rebelles de l'ADF. En outre, entre les 10 et 14 juillet 2014, une grande quantité d'armes et de munitions a été découverte dans des caches situées dans la région de Tianzhou par les casques bleus au cours de leur patrouille. Durant la semaine écoulée, le camp de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réintégration DD3R de la MONUSCO, situé à Kanyabayonga, a accueilli des membres supplémentaires des familles d'ex-rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda, portant ainsi le nombre de pensionnaires de ce site à 261 individus, dont 103 combattants et 158 dépendants. Du 8 juillet 2014 à ce jour, nous avons enregistré une dizaine de redditions, dont 7 éléments du groupe Maïmaï Rahiob Boutomboki, pour ne citer que cela. L'environnement sécuritaire est demeuré relativement calme au sud Kivu durant la semaine écoulée. Par ailleurs, la force de la MONUSCO continue de fournir l'appui logistique nécessaire au camp des ex-rebelles des FDLR et en récemment fait reddition avec les membres de leur famille ont été hébergés. Des mesures sécuritaires adéquates ont également été prises par la force pour les sécuriser. À ce jour, le nombre de pensionnaires de ce site est de 310 individus, dont 83 combattants et 227 dépendants. En outre, les différents postes opérationnels de la force onusienne déployés dans cette province maintiennent la pression sur les groupes armés et assurent la protection des populations civiles par la conduite de patrouilles intensives dans cette partie du pays. Au Katanga, la situation sécuritaire a été dominée par des conflits communautaires ainsi que par des actes de banditisme enregistrés dans la province. Ainsi, le 12 juillet, des miliciens pygmées ont tué 3 femmes appartenant à l'ethnie Baloubakat au village Sangé, situé à 195 km au nord-est de Manono. Suite à ces meurtres, le 13 juillet, donc le lendemain, des miliciens Baloubakat ont en retour mené une incursion dans le village Luizi, à l'est de Kabalo, et incendié 17 maisons appartenant aux Pygmées. Des patrouilles d'intervention conjointes, ainsi que des déploiements des FRDC et de la PNC, ont été menés dans cette zone pour y maintenir la paix. Nous avons enregistré au Katanga une 20aine de redditions d'éléments Maïmaï Bakata Katanga auprès des FRDC déployés à Kabuela. Ceci, c'est à 136 km au nord-ouest de Moba. Le secteur 2, quant à lui, est tout à fait calme. Et concernant les différentes patrouilles que nous avons menées durant la semaine écoulée, elles se chiffrent à 1823 armées, dont 500 nocturnes, et 17 escortes ont été fournies par les observateurs. Je vous remercie de votre attention.